Saluton.
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 Saluton. Saluton.
Saluton al ciui. Bonjour à tous. Nous donnons la parole aujourd'hui à Mireille Grosjean, une espérantiste suisse qui nous a rendu visite au cours d'une tournée en France les 11 et 12 septembre 2010. Mireille est très connue dans le milieu espérantiste mondial. Elle parcourt en effet le monde jusqu'au Japon, jusqu'en Afrique, grâce à l'espéranto et pour l'espéranto. Parmi ses différentes casquettes, celle qui nous intéresse aujourd'hui est la responsabilité qu'elle assume à Genève. En effet, l'espéranto est reconnu officiellement par l'ONU et l'UNESCO. UEA, Universala Esperantista Asocio, autrement dit l'Association mondiale d'espéranto, est représentée à New York et à Genève auprès de l'ONU et à Paris auprès de l'UNESCO. Mireille Grosjean était donc en tournée en France et a fait une halte de 2 jours en Dordogne. Si j'en ai précisé tout à l'heure la date, c'est que ce 12 septembre 2010 était déjà marqué d'une pierre blanche en Dordogne. Il s'agissait en effet du 70e anniversaire de la découverte de la grotte de Lascaux. Je rappelle que notre groupe a traduit en espéranto « Le secret des bois de Lascaux ». Cet album de bande dessinée, créé 20 ans auparavant par les auteurs Péry Gourdin, Thierry Félix et Philippe Bigoteau, raconte la découverte de la grotte, de cette fameuse grotte, en 1940 par 4 jeunes garçons. Nous nous sentions donc particulièrement concernés par cet anniversaire. Et Mireille, qui passait donc ce jour-là en Dordogne tout à fait par hasard, a parfaitement joué le jeu. Et cela après avoir participé à une présentation de l'espéranto le samedi 11 à Ribérac, puis après avoir animé une conférence à Trélissac le dimanche matin. Elle nous a donc suivi l'après-midi à Montignac, une demi-journée d'ailleurs après le passage du président Sarkozy. Et à Montignac s'est déroulée donc, en fin d'après-midi, une émouvante cérémonie en présence notamment des 2 inventeurs survivants de la fameuse grotte, Georges Agniel et Simon Coenkaas. Les 2 disparus, Jacques Marsal et Marcel Ravida, ont été également honorés. L'interview qui va suivre a donc été enregistrée après ce week-end riche en émotions, dans la gare de Périgueux, tout simplement lorsque j'ai raccompagné Mireille pour l'étape suivante. J'espère que vous nous pardonnerez ce léger bruit de fond. Nous recevons donc aujourd'hui Mireille Grosjean, que nous raccompagnons à la gare de Périgueux, après un week-end particulièrement chargé. Bonjour Mireille.
Bonjour. Oui, on avait différentes choses. On avait déjà une réunion intéressante le samedi, juste au moment de mon arrivée. Et puis conférence dimanche matin avec les espérantophones de la région. Et puis visite du site de Lascaux, 6 heures après M. Sarkozy. Et là, on a eu possibilité de se balader avec une affiche espéranto sur le dos, histoire que tous les gens qui étaient là, avec des élus locaux et beaucoup de personnes, sont venus sur la porte du site de Lascaux. Et c'était tout à fait bien placé de présenter l'espéranto à ce moment-là, étant donné que la bande dessinée qui a paru en français va paraître d'ici octobre-novembre 2010 en espéranto. Voilà.
Merci beaucoup Mireille. Peux-tu te présenter d'une part et ensuite préciser ton rôle de délégué d'UEA à l'ONU?
Voilà, alors je viens de Suisse et je suis coprésident de la société suisse et il y a à Genève le principal siège européen de l'ONU et UEA, l'espéranto, est accrédité auprès de l'ONU et de l'UNESCO depuis 1954. Ce qui signifie qu'il y a à Genève 5 délégués, à New York 5 délégués auprès de l'ONU et à Paris auprès de l'UNESCO également 5 délégués. Donc je suis une des 5 personnes qui représentent UEA, l'Association universelle d'espéranto à Genève.
Très bien.
Voilà, alors à Genève, on a la possibilité de siéger au Conseil des droits de l'homme et on a la possibilité d'y prendre la parole. Le Conseil des droits de l'homme a été fondé assez récemment et il y a 47 membres. Donc il y a 47 États membres qui sont assis au centre de l'hémicycle. Autour d'eux, il y a des délégations des autres pays. Et tout en haut de l'hémicycle, autour, il y a les ONG, les organisations non gouvernementales qui représentent la société civile. Et ça, c'est très très important. Parce que on parle toujours des Nations Unies, mais en fait, le mot est mal choisi. Parce que c'est pas les nations, ce sont les États. Ce sont les gouvernements qui délèguent des personnes pour parler en leur nom au Conseil des droits de l'homme. Très souvent, je l'ai vu lors de l'examen périodique universel, on examine tous les pays tous les 4 ans, eh bien, c'est les ministres des Affaires étrangères qui viennent. Donc, on ne devrait pas dire Nations Unies, on devrait dire gouvernements unis ou États-Unis. Bon, États-Unis, on ne peut pas, parce que c'est déjà pris, mais on devrait dire gouvernements unis et les nations apparaissent sous la forme de d'organisations non gouvernementales qui peuvent s'exprimer. Est-ce qu'elles peuvent changer le monde? Je ne sais pas, mais j'ai assisté à la séance sur le Congo. On a eu d'abord 20 minutes le ministre des Affaires étrangères qui nous a dit « on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça ». Tout était au futur. Il nous a dit « on va nommer 1000 nouveaux juges en 2010 et 1000 autres nouveaux juges en 2011 ». Pour que cette impunité qui règne au Congo cesse. Ensuite, on a entendu chaque fois, à raison de 3 minutes, les 10 pays qui ont examiné le Congo. Alors là, c'était la pommade, c'était « oui, nous remercions le gouvernement, on a pu tout voir, tout est en ordre, on a été bien accueillis, etc. » Puis après ça, on a eu 10 ONG congolaises. Et là, c'était « vous faites rien, c'est un état de non-droit, il y a déjà 10 millions de morts ». Et ça criait, mais d'une manière très émotive, très agressive. Et puis, j'ai eu l'occasion de discuter après avec des gens du gouvernement et avec des gens des ONG qui disaient « ben, c'est clair que ce qu'on dit ici, c'est pas l'ONU qui va se charger de mettre en œuvre au Congo, mais notre ministre a eu honte publiquement ». Étant donné qu'ils font pas grand chose au gouvernement, l'état de droit au Congo, faut pas rêver. Et voilà, c'était l'occasion pour ces ONG de s'exprimer. Et le ministre, il doit quand même un petit peu se mettre au travail après. Il a eu honte publiquement. Et ça, c'était l'analyse des gens des ONG. Alors, ce qui était fantastique, c'est que on a eu ces 10 interventions très agressives des ONG. Et puis ensuite, pause. Alors, tout le monde est sorti, tout le monde était debout dans les corridors, qui sont immenses et superbes et ornés d'œuvres d'art et tout. Et puis, j'ai vu un monsieur et une dame assis, puis ce monsieur me salue, puis j'ai risqué de lui poser la question, est-ce que vous êtes du gouvernement? Puis il me dit oui. Puis à côté de lui, il y avait une dame africaine avec un t-shirt, et puis mouvement des femmes, ou je ne sais plus ce qu'il y avait imprimé sur son t-shirt, donc visiblement pas gouvernemental, parce qu'en général, ils sont super bien habillés, que ce soit en habits occidentaux ou en habits africains. Et puis, elle me dit, voilà, oui, je suis d'une ONG. Puis là, je leur ai dit, mais c'est vraiment fantastique, là, vous êtes assis l'un à côté de l'autre, vous discutez paisiblement. Après ce qu'on a entendu, on pourrait quasiment imaginer des rixes style samedi soir. Et puis, elle m'a dit, ici, on peut. À Genève, à l'ONU en général, que ce soit Genève ou New York, c'est un terrain neutre et on peut rencontrer ses autorités. Elle m'a dit, notre ministre, il est là au bout de la salle en train de se faire interviewer. Je vais aller le trouver pour lui demander ceci, ceci, ceci. Elle m'a énuméré une quantité de mesures. Mais elle m'a dit, on peut pas l'approcher à Kinshasa. Donc, ces rencontres, c'est toujours en séance, tout aussi bien que hors séance, il y a des possibilités de communication sur un terrain neutre qui est l'ONU, et ça c'est tout à fait génial. Maintenant, au niveau de l'espéranto, il est clair que l'ONU travaille sur 6 langues officielles, l'anglais, français, espagnol, russe, arabe et chinois, et on va pas demain, d'un claquement de doigts, introduire l'espéranto. Mais on a tout un travail à faire, qui consiste premièrement à sensibiliser les gens sur le fait que la situation linguistique actuelle n'est pas satisfaisante. À l'ONU, 6 langues sur 6 000, c'est pas satisfaisant. Les 5 901 autres langues sont discriminées. défavorisés. Donc, sensibiliser premièrement sur la situation linguistique actuelle qui n'est pas satisfaisante. Deuxièmement, que les gens sachent ce que c'est l'espéranto. C'est une langue, on peut communiquer avec ça. Et troisièmement, que les gens en discutent sans préjugés, sans stéréotypes, rationnellement. C'est une langue qui permet une communication équitable et démocratique à travers le monde. Et c'est à ça qu'on travaille à Genève.
Merci beaucoup, Mireille. C'est le groupe suédois Persone qui vous chantait « Du homoi », c'est-à-dire « deux êtres humains ». Nous vous rappelons que vous pouvez vous procurer la plupart des morceaux qui illustrent notre émission auprès de Vinyl Cosmo. Cet éditeur, établi à proximité de Toulouse, est spécialisé dans la diffusion des artistes espérantistes. On le trouve sur Internet. Vous pouvez écouter des extraits avant de les acheter. Il y a d'ailleurs deux formules. Vous pouvez vous les faire livrer ou bien les télécharger. Et cela légalement, bien entendu. Ce sera un bon moyen d'encourager la création en espéranto. Mais dites-moi, c'est bien l'heure du cours d'espéranto? Alors allons-y tout de suite. Nous allons maintenant aborder des exercices de thèmes. Ma première carte postale, Roland.
Mia unua postcarto.
Très bonne. Mia unua postcarto. Chers camarades, j'aimerais correspondre avec vous, Dorothée.
Cara amico, mi chatus,
oui,
correspondi con vi.
Très bien. Alors, camarade, tu as traduit par ami, amico, mais le mot camarado existe aussi, oui. Hein, mais il n'y a pas de problème, tu peux dire amico.
Cara, caramado.
Cara camarado, mi chatus correspondi con vi. Nous allons avouer une petite chose. Je ne suis pas très bon espérantiste, car j'apprends seulement depuis quelques mois. Voilà, les espérantistes sont des gens
très discrets,
mais aussi très indulgents, donc il n'y a pas de problème, on peut tout à fait, dans une première lettre à un espérantiste, lui avouer que nous sommes débutants. Ne gravas, il n'y a pas d'importance. Je ne suis pas très bon espérantiste, Pierre.
Mi ne estas très bona espérantisto.
Mais oui, mais là, tu es en train de nous contredire parce que tu ne fais pas d'erreur. Allons. Car j'apprends seulement depuis quelques mois.
Char.
Yes.
Mi. Comment est-ce qu'on dit apprend?
Pensez à l'anglais ou l'allemand.
Lernas.
Mi lernas.
Lernas.
Seulement depuis quelques mois.
Sole.
Nour.
Nour.
Nour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Gis.
Alors,
gis,
nene gis, c'est jusqu'à.
Non.
Alors, on peut dire de ou même ek de.
Ek de.
Ek de. Quelques mois.
Quelkai monatoi. Monatoi.
Quelkai monatoi. Très bien, très bien. Alors, je reprends la phrase. Il y a plusieurs expressions possibles. Mi ne estas tre bona esperantisto, char mi lernas nur ek de quelkai monatoi. On peut aussi dire « j'ai commencé à apprendre il y a quelques mois ». « Char mi ek lernis nur Antau kelkaj monatoj, mi eklernis. J'ai commencé à apprendre. Voilà, donc les deux formulations sont possibles. Pour commencer, je désire écrire des cartes postales, recevoir des vues de votre pays et de votre ville. Pour commencer, Roland.
Pour commencer.
Commencer.
Oui, alors.
Voilà.
Commencer, Dorothée a utilisé ce qu'aiment bien faire les espérantistes, ah, oui. Directement un adverbe. Mot à mot, on aurait très bien pu dire por comenci, mais commencer au début, très bien.
Ah, oui.
Ou bien encore unue, premièrement ou d'abord.
Ah, oui.
Voilà, il y avait toutes ces formules sont possibles. Donc, commencer.
Donc,
je désire écrire des cartes postales.
Mi desiras scribi post. Ta postcard.
Très bien. Recevoir des vues de votre pays.
Ricevi.
Yes. Des images peut-être.
Oui, le bildoin.
Ah, yes. Bildoin, c'était bien.
Bildoin.
De
prix.
Prix, c'est possible, ou de.
Ou de.
De via Lando.
Gaille.
Gaille de via Urbo.
Urbo, ah. Très bien. Donc, pour commencer, je reprends l'expression de Dorothée, commence. Mi desiras scribi postcartoin, ricevi bildoin de via Lando, kai de via Urbo. On aurait peut-être pu aussi utiliser el via lando,
ah, oui.
Kai el via urbo. El, c'est l'origine. J'espère progresser rapidement.
Mi esperas progressi rapide.
Très bonne. Et l'adverbe peut être placé avant ou après le
rapide,
verbe.
Hein. Rapide progressi.
Yes, très bonne. Oui. Mi esperas rapide progressi, mais oui. Tu peux dire aussi. Progressi,
oui.
Rapide,
oui,
c'est une façon de souligner peut-être l'adverbe rapide.
Ah, oui.
Alors, ben on va demander, on ne va pas le demander à une dame, j'ai...
Mi estas...
Allez, j'ai 20 ans, on peut rêver.
Oui,
voilà.
Mi estas, donc, dudek...
Dudek yara, ou même dudek yaraja. Âgé de 20 ans. Donc, on peut aussi employer le verbe avoir. Mi havas dudek yaroin. Mais un petit peu comme en anglais, on dit plutôt je suis âgé de temps. Mi estas dudek yara ou dudek yaraja. J'aime le sport. Alors, l'ensemble de la phrase. J'aime le sport, la musique, les longues promenades dans la campagne et je lis beaucoup. J'aime le sport, Dorothée.
Mi ŝatas sporton, muzikon,
les longajn promenadojn
en la kamparo kaj Mi multe legas.
Je reprends la phrase. Mi ŝatas sporton, muzikon, longajn promenojn ou bien promenadojn en la kamparo kaj mi multe legas. J'espère.
Promeno oui. Et promenado. Alors.
Ado, c'est un suffixe pour une action qui se prolonge.
Qui dure, non, c'est
voilà. Donc, si elle est longue, on va plutôt dire promenado. J'espère recevoir bientôt votre réponse et je vous salue cordialement. J'espère.
Mi esperas.
Recevoir bientôt votre réponse.
Ricevi baldo.
Voilà, c'est mieux dans ce sens-là, tu as raison Dorothée.
Baldo ricevi.
Mi esperas baldo ricevi.
Vian respondo.
Yes.
Kai.
Mi salutas.
Mi salutas vin. Coro.
Cette fois, un adverbe.
Corre.
Voilà. Corro, c'est le cœur.
D'accord.
Et avec le cœur sous forme d'un adverbe, corre.
Corre.
Donc, mi esperas baldau ricevi vian respondon, kai salutas vin corre, ou bien corre salutas vin. Vous remarquerez que je n'ai pas répété le pronom je.
Non.
Les espérantistes les économisent en général. Hein? Donc, puisque le pronom je se trouve deux fois dans la phrase, en espéranto, on va plutôt l'y mettre qu'une seule fois. Mi esperas baldaŭ ricevi vian respondon, kaj salutas vin corre, ou bien corre salutas vin. Très bonne. Je vais vous demander peut-être de créer quelques phrases vous-même, ou bien de vous poser des questions, soit sur le texte. Qu'est-ce qui vous inspire?
Posez
des questions. Sur le texte de tout à l'heure, ou sur...
Si vous voulez.
Je crois que je n'ai pas insisté tout à l'heure sur une vis. Une vis, Schraubo. Mm-hmm. Ça s'écrit S, chapeau, R, A, U, chapeau, B, O. Donc... Quand je dis chapeau sur le S, c'est un accent circonflexe. Et quand je dis chapeau sur le U, c'est un arc de cercle. C'est un arc de cercle, la concavité tournée vers le haut.
Oui. Alors, le tournevis, comment est-ce qu'on le dit?
Ah.
Schraubo.
Je crois que c'est Schraubilo.
Schraubilo, oui.
L'outil pour visser. Schraubilo.
Ça paraît assez logique.
Oui,
ça
oui.
Paraît logique.
Ça paraît logique, oui.
Ouais. Et le mot Schraube, ça vient de l'allemand.
Ah, Schraube vient de l'allemand.
Schraube, c'est un vis, quoi.
Ouais, mais qu'ils en aient quelques-uns, quand même, quoi.
Eh bien, il y a 25% de racines anglo-germaniques pour 75% de latin.
Il y a quand
latin.
Même 25% de...
Environ, oui. Ah, ouais. Alors, on va citer quelques mots qui viennent de l'allemand. Un oiseau. De l'anglais ou de l'allemand. Hein.
Ouais.
Un oiseau.
Birdo.
Birdo.
Birdo, c'est...
Bird.
Bird.
Bildo, qu'est-ce que c'est Bildo?
Bildo, c'est une image.
C'est une image, oui.
Alors, ça vient de l'allemand, je crois.
De l'allemand.
Bild, quel est le mot en allemand?
Non, attends.
Bildo?
Bird, en anglais.
Oui, bird.
Oui, c'est pour l'oiseau.
Mais
pour
Bildo, une image.
Bild, c'est allemand, une image.
Ça s'écrit B-I-L-D.
B-I-L-D.
D, mais ça se prononce Bild.
Bild.
Yes, Duncan.
Et puis, Zorg.
Zorgi.
Le verbe zorg qui vient du néerlandais zorgen, prendre soin de.
D'accord. Et là, pas de l'allemand, carrément du néerlandais.
Si, ça existe en allemand, mais ça pas les mêmes. On l'utilise pas dans le même sens. On l'utilise pas dans le même sens.
D'accord.
En néerlandais, on l'utilise de tort et à travers pour n'importe quoi. C'est prendre soin de. Mais en allemand, ça a une signification précise.
D'accord. Et apprendre?
Lernas pour learn.
Voilà, tout learn en anglais ou lernen en allemand.
Voilà.
Donc là, on va dire anglo-germanique pour ne pas froisser.
Froisser.
Ni les uns ni les autres.
Voilà.
Ah oui, hundo.
Hundo.
Ah, oui.
Le chien en anglais, c'est...
Dog.
C'est dog.
C'est
non,
dog, mais
en allemand, c'est hunt.
Hunt. Et en anglais, hunt, c'est bien la chasse à cour.
Ouais.
Ah oui, c'est la
alors,
chasse à cour.
Est-ce qu'il y a un rapport entre chasse
to
à cour
hunt,
et le chien?
To hunt, c'est
sans doute.
Chasser.
Chasser.
Oui. Bonne. Quelques autres exemples de mots de racines anglo-germaniques.
Qu'est-ce qu'on a encore?
Une...
Ah oui, les bedaurinde. Vous avez demandé.
Oui, c'est
malheureusement, ça vient de l'allemand bedauern, le verbe bedauern, regretter.
D'accord, et là c'est le verbe bedauri, donc en espéranto.
Ouais.
Nailo, qu'on a vu tout à l'heure. C'est...
Ah oui, c'est nail.
Un clou. Et en allemand
Un nagel. Avec N-A-G-E-L.
Nagel, d'accord. Duncan. Eh bien, nous terminons aujourd'hui sur le clou de l'émission.
Pardonnez-moi si je vous ai déjà infligé ce jeu de mots particulièrement facile. À bientôt. Gisbaldau.
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 Gis.